Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Périgord littéraire. Alors, nous allons retrouver cette semaine encore Patrick Chalmel et le chien de la centenaire et autres nouvelles pour la cause de notre langue. Alors c'est une mission bilingue, Languedoc français, et c'est édité par le Bournat du Périgord qui se trouve très heureux que les Bères à Périgueux. Voilà, alors il y a quelques nouvelles en plus. On va voir ce que contient ce livre. Alors, il y a bien sûr une introduction, le chêne de la centenaire, l'aiguille défie le temps, le miroir de l'Artsem, le musée historique et archéologique de Bourdeix-Dance, l'édit de la Duchesse, ce qui nous unit, le secret d'instituteur et une bibliographie. Alors, on va commencer un petit peu par ces histoires. Alors, il y a un chapitre, je crois qu'on l'avait donné un tout petit peu la semaine dernière, et qui s'intitule, donc ce chapitre, « Agir pour l'avenir de notre langue ». Bref, les contes que vous allez lire s'inscrivent dans ce contexte de réaction et de l'effacement accéléré de Languedoc à l'époque contemporaine, et ils manifestent tous, de quelque manière, l'un ou l'autre, des engagements félibréens pour la conservation et la transmission aux jeunes générations de ces langues et cultures hoc du Midi. Maintenant vives et créatives, nos langues et civilisations peuvent conserver et transmettre nos réels dialectes en Languedoc, en les protégeant si besoin de toute substitution par un Occitan aussi hégémonique qu'artificiellement unifié. Rien n'est gagné, c'est sûr, ce n'est pas demain que le Midi se remettra à parler Languedoc à la place du français, et honnêtement, je ne sais pas si c'est souhaitable, en voyant combien le français à son tour est aujourd'hui menacé aussi bien par le franglais que par l'ignorance de sa propre langue, qu'on peut noter depuis quelque temps au sein du peuple français. Une part non négligeable des jeunes générations de notre pays se trouve en effet réduite aujourd'hui à parler un sabir infâme de quelques centaines de mots seulement, qu'il ne sait plus écrire, pas plus qu'on est en mesure d'en conjuguer les verbes, et n'en demeure pas moins que perdre un trésor linguistique et culturel tel que notre langue doc et ses différents dialectes n'est pas admissible. Il faut sauver notre langue et il faut s'y employer tant que sont encore en vie certaines de nos anciens dont la langue doc était la langue maternelle. Par l'écrit, le son et l'image, il faut tout enregistrer, tout maintenir en vie et tout transmettre. Mais de fait, rien n'est perdu non plus, parce que ce que je vois depuis quelques années en Périgord, les jeunes et adultes aussi, dans les écoles bilingues, ateliers de langue ou autres, sont de plus en plus nombreux à se montrer fiers de leur culture du Midi et du Périgord, et à s'intéresser à la langue doc, à vouloir la conserver et apprendre à la parler. Ils ont compris que la langue, en leur faisant mieux connaître leur culture, préserve également leur identité, leur civilisation périgourdine. Et c'est une convivialité, unité particulière aussi, comme on peut le voir plus loin dans les nouvelles de ce qui nous unit. Serait-ce que pour ces jeunes et moins jeunes, cela vaudrait le coup de continuer à écrire en langue doc pour conserver nos parlers et notre culture et leur communiquer. Voilà, alors je préciserai, je crois que je ne l'ai pas fait, mais je préciserai que Patrick Chalmel est auteur d'à ce jour d'une quinzaine d'ouvrages pour lesquels il a obtenu des prix littéraires. Alors Patrick Chalmel est marié, père de 4 enfants et grand-père de 16 petits-enfants. Né à Creil-Saint-Périgord-Poupe, il est docteur en philosophie, maître ouvrier du Bournat du Périgord, maître en grès savoir du Félibrige et alors là, en plus, sujet Patagon. Voilà, alors donc il y a toutes ces histoires en français et en occitan, qu'on peut facilement apprendre, et il y a des cours, comme je venais de le dire. Alors, si on peut aujourd'hui apprendre l'occitan à l'école, eh bien c'est grâce à deux Périgourdins qu'on le doit, c'est d'abord à Yvon Delbos. Alors Yvon Delbos est né en 1885 à Tonnac, près de Montignac, où ses parents étaient instituteurs, alors plusieurs fois ministre, sera candidat à la présidence de la République, mais sera battu par René Conti, et il décédera en 1956. Et puis il y a Jacques Magne. Jacques Magne, alors Jacques Magne est né en 1923, il est décédé en 2013, journaliste originaire de Montignac, il écrira notamment Marie de Hautefort et Jean Galmot, Homme des Tropiques. Alors ce livre donnera lieu à un film dans les Malines. Alors Galmot, aventurier, rôle interprété par Christophe Malavoy en 1990. Alors, ceci n'est pas une adaptation de la biographie, précision apportée au début de ce livre. J'ai rencontré Jacques Magne il y a quelques années et il m'a laissé, j'avoue, un très bon souvenir et m'a dédicacé son livre sur Galmont. Voilà, alors, Yvon Delmas et Jacques Magne sont tous deux à l'origine de l'apprentissage des langues régionales à l'école, mais ce texte est connu sous le nom de loi d'Exode. Alors, Dexon était un député socialiste du Tarn, instituteur, il était rapporteur de l'enseignement des langues et dialectes locaux. Yvon Delmas n'étant plus à cette époque ministre de l'Éducation nationale, et ce sera d'ailleurs son dernier poste, je crois, au sein du gouvernement. Alors, que dit cette loi qui a pour titre enseignement des langues et dialectes locaux est paru au journal officiel le 1951, et voici les deux premiers articles qui en comptent 11 au total. Alors, l'article 1er, le Conseil supérieur d'éducation nationale sera chargé dans le cadre et dès la promulgation de la présente loi de rechercher les meilleurs moyens de favoriser l'étude des langues et dialectes locaux dans les régions où ils sont en usage. Alors, il y a l'article 2, on va s'arrêter là après. Des instructions pédagogiques seront adressées aux recteurs en vue d'autoriser les maîtres à recourir aux parlers locaux dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils pourront en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française. Alors, il y a ce texte concerné, évidemment, au départ, les langues celtiques, alors le basque, le catalan et languedoc. Il y aura des rajouts à cette loi en 1974 à 1981 et concernant plus spécialement les langues malinésiennes en 1992. Alors, pour aller un peu plus dans le passé, en 1951, à l'occasion de cette Estelle d'Aurillac, le Félibrige décernera à l'unanimité des remerciements à Delmas, Dexon et Jacques Magne. De plus, Félibrige offrira à Maurice Dexon une eau forte de Valérie Bernard, qui fut capoulier du Félibrige de 1909 à 1918. Voilà, alors, donc pour reprendre ce livre, Le chien de la centenaire, bon, je vais donner quand même, on va voir un petit extrait. Alors, il y a l'aiguille défie le temps. Alors, l'aiguille, bon, c'est le surnom de quelques personnes. Alors, l'aiguille avait été achetée, mais je vous parle d'abord, je vous donne en français, et évidemment, il y a une version occitane et une version française. Et alors, il avait acheté, mais je vous parle d'avant-guerre, par le vieux Picata. Le Picata, bon, on verra plus loin, c'est un pivert. Quel Picata, le vieux Borderie, du bourg de Creil, ce Borderie le riche ou sa voisine en face. Mais que non pas, ni l'un ni l'autre, je parle des Picata de Montbazillac, le vieux Edmond Borderie de Poulevert. Puisque vous en parlez des Borderies, intervient l'oncle Paul, quelqu'un pourrait-il enfin m'expliquer pourquoi tous les Borderies du Bergeracois, même s'ils ne sont pas parents, ont tous été surnommés Picatal. Alors, comme je disais, Picatal dans le lit, Picatal en sarladé, c'est un pivert. Eh bien non, personne ne le savait, les Borderies sont tous des Picata, et c'est ainsi, et puis c'est tout. Et la Picata, demanda Marie, la femme d'Yvan de la Ferrière, c'est une Borderie elle aussi. Et non, cette étrange vieille des Pélissous, rusée, que c'était rien de le dire, moitié folle et qui ressemblait à une sorcière, et sœur de lait de mon grand-père n'avait aucun lien de parenté avec des Borderies. Ce surnom de Picatade était le sien, il lui était personnel, expliqua quelqu'un, peut-être mon arrière-grand-père, je ne me souviens plus, mais on ne savait pas non plus pourquoi, elle avait été surnommée ainsi. Alors j'aimais ces grands soupers tardifs des soirs de vendage, ou de gerbe bode, la gerbe joyeuse, et quand on tuait le cochon, il y avait là à table la famille et les voisins venus aider, et ça discutait de tout et de rien, nous autres les enfants, à un bout de la table, nous écoutions sans faire de bruit. Et c'est que tout ce qui s'est raconté, pour ce qui me concerne, je me souviens qu'à chaque fois, c'était la même chose, passé un moment, je ne pouvais plus ouvrir les yeux, Et ça me plaisait malgré tout à écouter ce qui se disait. Je croyais tout entendre, même si à moitié endormi, je ne tardais peut-être pas à mêler le rêve à ce que j'entendais. Et si vous le croirez ou pas, mais après plus de 60 années, j'ai toujours dans l'oreille la façon dont me parvenaient les voix à ce moment-là. Alors, on va poursuivre un peu la lecture. Voici ce que donnait ce garçon. Comme venant de loin, assourdi et accompagné d'une espèce d'écho. Bref, ce soir-là, passant de quelque chose, ce à quoi je n'avais pas prêté attention, sur un vieux bord de riz de Montbazillac, on en était venu à parler des surnoms. Il y a eu quelqu'un à un moment donné faire observer combien les surnoms, d'une certaine façon, empêchaient le temps de passer. Alors, bien sûr, il y a plusieurs, l'histoire continue un peu plus loin, et puis il y a un garçon qui va avoir une fuite, et on va bien sûr quand même nettoyer tout ça. Voilà. Alors, le livre se poursuit ainsi. Voilà, voyons, dit-elle, tu parlais des surnoms pour faire stopper le temps. Est-ce que tu voulais dire au juste? Eh bien, expliquez celui-ci. Oui, les surnoms empêchent d'une certaine manière le temps de s'écouler, mais seulement dans notre langue, faut-il observer. Ça ne marcherait pas si les surnoms en français venaient remplacer nos surnoms de toujours. D'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un de vous l'a remarqué également, mais ceux alentour qui ne parlent plus que le français n'ont pratiquement plus de surnoms, ils n'en donnent plus non plus. La science ou l'art des surnoms, comme vous voudrez, ne prospère ici qu'en patois, en langue d'oc, si vous préférez. Et le plus drôle et les mieux trouvés de nos surnoms, et en plus de langue de chez nous, plus de surnoms. Bref, les surnoms empêchent pratiquement le temps de s'écouler, parce que peuvent bien se passer des années, des dizaines d'années, il y a toujours le frac pour commander là, en bas, au côté. Et un lion dirige toujours à Pélissou, la fouine à Combes, obscure, un quincarel, celui qui domine, qui est au sommet. Alors ça, c'est une note de l'auteur. Et à part force, en chérie, mon arrière-grand-père mettant fin à cette revue d'état civil, même si le temps passe, il y a en effet toujours le frat au côté, le grand Louis au barède, et ainsi à peu près partout, vu que chez nous, l'aîné des fils est toujours surnommé comme son père et devient à son tour le maître de la ferme. Voilà. Et ça, oui, c'est quelque chose qui se produisait, mais maintenant, bon, les fermes, il n'y en a plus beaucoup. Eh bien, sans vouloir vous manquer, Louis lui répond, l'Ivan de la Ferrière, pas toujours et pas obligé. Des fois, c'est pas l'aîné, comme chez Barège, bien vouloir dire celui qui mélange, agite violemment. Alors, évidemment, c'est là aussi une note de l'auteur. À Montsourne, maintenant Barège, c'est le second parce que l'aîné n'a pas voulu reprendre l'exploitation et l'a laissé au plus jeune. Et ce dernier a hérité autant de la ferme que du surnom. Et ça peut même aller bien plus loin, ajouter un Mérignac comme à la Cavaille à Saint-Sauveur. Oui, tu dis, demanda l'Ivan, je ne vois pas. Eh bien, la ferme qui est à main gauche en sortant de Saint-Sauveur comme pour aller à Moulédier. Ah, un dénommé L'Aiguille. Et c'est ça. Eh bien, L'Aiguille, ce n'est pas son nom. Il s'appelle Pimot, de famille. Je crois que quelque chose comme ça, L'Aiguille, c'est seulement, et depuis je ne sais combien de temps, le surnom du maître de cette ferme. L'Aiguille, le vieux donc, et sa femme ont eu un fils aîné, suivi seulement d'une fille. Eh bien, le garçon voulait bien reprendre la propriété après son père, mais en aucun cas le surnom. Le père ne le voulut pas, comme si tu veux la ferme, disait-il, tu dois accepter le surnom, ça ne se discute pas. Et tous deux se sont entêtés et se sont obstinés, si bien que finalement le vieux a cédé de laisser le domaine paternel à son gendre, le mari de sa fille, et dorénavant, c'est lui qui s'appelle L'Aiguille à la Cabaye. Alors, je vais vous laisser découvrir mais la fin de cette histoire qui est tout aussi savoureuse que le reste. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, pas trop fraîche.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.